VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Bamako et 18h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, dans le nord du Mali, des habitants de la localité de Tinama, dont un employé d'une ONG européenne, Action contre la faim, ont été tués après le retrait des rebelles. Bagassi Koura.
Oui, la coordination des mouvements de l'Azawad, rébellion à dominante Touareg, affirme dans un communiqué que l'armée malienne a procédé hier matin à l'exécution sommaire et publique de 9 hommes dont elle donne les noms au marché de bétail de Tim-Ana, cercle d'Ansongo dans la région de Gao. Le communiqué précise que ces personnes ont d'abord été arrêtées par la milice Gatia proche de Bamako, puis remises aux soldats maliens qui les ont exécutées. Ces informations n'ont pu être confirmées de sources indépendantes. La MINUSMA et l'armée malienne n'ont pas fait de commentaires. Cependant, Action contre la faim Espagne a annoncé la mort de l'un de ses employés, Moussa Ag Mohamedoun, dont le nom figure sur la liste publiée par la CMA. D'ailleurs, ACF Espagne a suspendu ses activités dans le nord Mali, attendant de comprendre les circonstances exactes de cette tragédie.
République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées dans une embuscade tendue par de présumés rebelles ougandais dans le territoire de Beni, dans l'est du pays, où une série de massacres a fait plus de 350 morts depuis octobre. C'est l'AFP qui diffuse cette information aujourd'hui. Un camion est tombé dans une embuscade des ADF, c'est ce qu'ont dit les forces démocratiques alliées jeudi, à une cinquantaine de kilomètres du nord du Béni. Et il y a eu 2 morts et 3 blessés, selon l'administrateur du territoire de Béni, Amissi Kalonda. Les habitants de toute la province du Nord Kivu sont appelés depuis hier à s'habiller en noir, en signe de deuil. Pour un journaliste de l'AFP, ce mot d'ordre était peu suivi à Goma. Au Burundi, le patron de la radio-télé Renaissance est ressorti libre aujourd'hui du tribunal où il était convoqué par le parquet. Selon l'AFP, l'interrogatoire d'innocent Muhoozi par 3 magistrats du parquet était en rapport avec la diffusion du message des chefs des mutins, le général Godefroy Niambari. Radio-télé Renaissance, comme les radios RPA, Ansagarino et Bonesha FM avaient diffusé le 13 mai un message enregistré du général Niambari annonçant la destitution du président Pierre Nkurunziza. Les locaux de ces 4 médias ainsi que ceux de la radio privée REMA, proche du parti présidentiel CNDD-FDD, ont été détruits pendant le coup d'État avant que les forces loyales au chef de l'État ne prennent le dessus sur les soldats putschistes le 14 mai dernier. Et toujours Burundi, j'ajoute que près de 3000 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés en Tanzanie, principalement parmi des réfugiés burundais fuyant les violences politiques. C'est ce qu'a annoncé l'ONU aujourd'hui. Presque 400 cas sont signalés quotidiennement. Jusqu'à présent, 31 personnes sont mortes du choléra dans une zone située près de la ville frontalière de Kaguna, qui est submergée par des arrivées de réfugiés. Au Soudan du Sud, des chars gouvernementaux appuyés par des hélicoptères de combat ont repoussé les rebelles de Melu, une importante ville pétrolifère du Haut-Nil en proie à la guerre civile. D'après l'AFP, la télé d'État montrait les chars en train de faire feu, tandis qu'un hélicoptère de combat, probablement de l'armée ougandaise qui soutient le gouvernement, était en flammes. L'ONG Médecins Sans Frontières a prévenu ce vendredi que la recrudescence des combats au Soudan du Sud s'accompagne de violences contre les populations civiles et entrave le déploiement de l'aide alimentaire dont la population a pourtant désespérément besoin. Et tout ceci dans les 3 États où se concentrent les combats, soit l'état d'unité du Haut-Nil et du Jonglei. En Éthiopie, les élections générales prévues ce dimanche ont été reportées à une date indéterminée dans la ville de Bonga, circonscription du sud du pays détenue par le seul député indépendant du Parlement sortant. La commission électorale a évoqué une plainte du candidat Asebra Wolde Georgis, le seul député indépendant élu en 2010, en lice pour un second mandat face à un candidat de la coalition du pouvoir. La presse éthiopienne évoque de son côté des affrontements entre partisans des deux candidats, sans préciser si ces violences ont fait des victimes.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et dans le reste de l'actualité, l'Arabie saoudite frappée de plein fouet par le terrorisme aujourd'hui. Une explosion s'est produite lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite de l'est du royaume. Selon les premiers témoignages, il y aurait plus d'une vingtaine de morts. Salwa Jaafari.
Un individu aurait fait détonner une bombe qu'il portait sous ses vêtements pendant la prière dans une mosquée de Qudeï, une localité au cœur de la province orientale où se concentre la minorité chiite. L'attentat est aussitôt dénoncé par le moufti du pays, haut dignitaire du clergé sunnite, un acte criminel destiné à creuser un fossé entre les fils de la nation, a-t-il déclaré. Pour les chiites, le fossé existe déjà. La minorité est en colère, encore une fois Riyad a failli à les protéger. L'attaque d'aujourd'hui risque d'exacerber les tensions confessionnelles dans le royaume, surtout au moment où le pays est en guerre contre les rebelles chiites au Yémen. Et puis l'ombre de l'État islamique plane sur ce nouvel attentat. Le mois dernier, les autorités ont annoncé le démantèlement d'une cellule de 65 personnes soupçonnées de liens avec l'organisation et cherchant à perpétrer des attaques pour attiser les tensions entre les membres des deux courants religieux.
Au Yémen, de violentes explosions se sont produites aux alentours de Sanaa vendredi matin, après des raids aériens de la coalition conduite par l'Arabie saoudite contre des dépôts d'armes et des positions des rebelles chiites, houthis et de leurs alliés. Plus d'explications avec Jean-Roger Bion.
La coalition, dont la campagne a commencé le 26 mars, maintient la pression sur les rebelles en multipliant les raids aériens contre leur position depuis la fin, mardi, d'une trêve de 5 jours destinée à faciliter la distribution de l'aide humanitaire. « C'est une matinée de terreur », a déclaré à l'AFP un habitant de la banlieue sud de la capitale yéménite après la série d'explosions qui a suivi les raids sur 2 camps militaires, celui de Dabwa et celui de Rimat Hamid. À l'entrée nord de Sanaa, les avions de la coalition ont pris pour cible le stade de la Révolution et l'académie de la garde républicaine Ali Abdallah Saleh, un allié des rebelles. Aucun bilan des bombardements à Sanaa et dans la province de Marib n'était disponible dans l'immédiat. En revanche, à Aden, la grande ville du sud, des sources militaires ont fait état de 16 morts dans les rangs des Houthis et de leurs alliés et de 3 morts chez leurs adversaires dans des raids et des combats ce vendredi.
Direction Washington à présent, où le président Barack Obama a accordé à la Tunisie le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. C'était à la faveur de ses entretiens hier à la Maison Blanche avec son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi. Lionel Gaïma nous relate cette histoire.
La Tunisie est ainsi devenue le 16e pays au monde à être honoré de la sorte. Le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN permet aux États-Unis de nouer des alliances hors du cadre de l'Alliance Atlantique. Il ouvre la voie au renforcement de relations militaires et financières avec les pays concernés, sans pour autant aboutir à un accord de défense mutuelle. Les États-Unis croient en la Tunisie, a déclaré le président Barack Obama en promettant de continuer d'appuyer les réformes démocratiques entreprises par ce pays à la faveur du printemps arabe. Des réformes qui ont permis au président Essebsi de devenir le premier leader démocratiquement élu de la Tunisie. La Maison-Blanche a demandé au Congrès 138 millions de dollars d'aide en faveur de la Tunisie, dont plus de 62 millions pour la partie militaire.
Et puis en bref, en Irak, quelques 55 000 personnes ont fui depuis la mi-mai la ville de Ramadi, tombée aux mains du groupe État islamique. Après des combats, c'est ce qu'a indiqué vendredi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les djihadistes ont pris dimanche dernier le contrôle total de la ville, située à une centaine de kilomètres de Bagdad, infligeant un sévère revers aux forces pro-gouvernementales. Et en Syrie, nouveau progrès des rebelles islamistes dans le nord du pays aujourd'hui dans leur lutte contre le régime du président Bachar el-Assad. Selon l'Observatoire syrien pour les droits humains, le front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, a finalement pris le contrôle d'un hôpital des environs de la localité de Jisr al-Shungur, assiégé depuis des semaines. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et notre page Facebook. Très bonne fin d'après-midi et soirée à l'écoute de VOA Afrique.